Ça passe et ça casse.
Une revue de presse des informations militantes.
Par Geronimo Guzman. Alors, c'est pas tous les jours sur des sites totalement bénévoles et participatifs qu'on trouve quelqu'un qui fait un véritable travail d'une part de reportage et d'autre part d'écriture. Alors, je vais pas laisser passer l'occasion de vous parler de cet article sur Yahata. Yahata qui est le site d'information anti-autoritaire toulousain. L'article s'appelle « Le Uber de la restauration débarque à Toulouse, l'indépendance, c'est l'esclavage ». Et l'article commence comme ça. On travaille en freelance. L'affirmation orwellienne sort de la bouche d'un de ces jeunes gens branchés qui arpentent depuis peu les rues de Toulouse. Trench, sac à dos et casquette verte vissées sur la tête, il et elle vous livrent chez vous et en vélo le plat de votre resto favori. Il et elle n'ont pas de contrat de travail, sont rémunérés à la course et n'ont qu'un seul client, Take It Easy, pour les unes, Deliveroo pour les autres. Récit d'une collaboration libre, heureuse et surtout totalement indépendante. Et voilà que l'article nous raconte la vie professionnelle de Jordan, 23 ans, Jordan qui a deux passions, le vélo et la liberté. Comment, à cause de ces deux passions, il répond à une annonce pour un job? L'annonce est formulée comme ça, on peut la trouver facilement sur internet. Vous possédez un vélo, utilisez-le et gagnez minimum 12 euros de l'heure et jusqu'à 20 euros de l'heure. Take It Easy recherche actuellement des coursiers à vélo pour effectuer des livraisons de repas à domicile. Emploi totalement flexible, travaillez quand vous le souhaitez pour arrondir vos fins de mois. Alors au long de l'article, on comprend que ce que Jordan adore dans la vie, c'est la liberté. Et donc qu'il est enthousiasmé par son boulot. Il travaille quand il veut, comme il veut. Il est auto-entrepreneur et il vend ses services à Take It Easy, une boîte qui propose donc de livrer à domicile des repas préparés dans des restos. Et ce qui fait que Take It Easy n'est pas son patron, mais est client de l'auto-entreprise de Jordan et donc d'un certain nombre d'autres jeunes qui travaillent comme ça. Alors, ce dimanche matin, le dimanche que nous raconte l'article, Jordan est en retard pour sa shift. Alors attention, on dit pas vacation, hein, c'est has-been, on dit shift. Il est en retard pour une histoire de chambre à air, bien sûr, c'est les inconvénients du truc. Et le problème, c'est que le week-end dernier, il était déjà tombé malade et il avait dû annuler sa shift au dernier moment. Oulala, annuler moins de 48 heures avant la prise de poste, ça, c'est un strike. Et au troisième strike, c'est la sanction, on ne fait plus appel à vous. Mais alors attention, hein, on fait plus appel à vous et du coup vous travaillez plus pour Take It Easy, mais on va pas se prendre le chou avec des procédures de licenciement, puisque Dieu merci, vous n'êtes pas salarié. Sauf que là, Jordan en est déjà à son deuxième strike. À cause de la crevaison, il a dû refuser une commande et il est interdit de refuser une course, même librement, tant que la shift n'est pas finie. Et l'article nous donne quelques précisions sur le travail de Jordan, sur la vision du monde qui est partagée entre les auto-entrepreneurs et leurs clients, c'est-à-dire donc le boss de Take It Easy, qui fait appel à elle et à eux. Alors, le boss chez Take It Easy, on dit un CEO, c'est-à-dire un Chief Executive Officer. C'est moins ringard que dire président-directeur général, vous comprendrez bien. Une vision du monde qui est toute faite de culte de la liberté, de mépris pour le salariat, et pour ce que l'article nous dit être un vieux truc lénifiant qu'on appelle trivialement le droit du travail. Donc, ce qui est adulé, c'est la liberté, et la liberté, c'est bien celle du renard libre dans le poulailler libre, comme nous le rappelle l'article. Encore un extrait de l'article. De temps en temps, Jordan croise les types de Allo Resto sur leur scooter du siècle dernier. Il et elle font le même boulot, à la différence qu'il et elle sont sous le joug d'un contrat de travail. On dit que ce sont des salariés. Un mot un peu barbare qui fait rigoler Jordan. Et en même temps, il ne peut s'empêcher de les plaindre. Lui, il est libre. Il n'est pas obligé d'observer un jour de repos par semaine, de s'ennuyer en congé payé, de cotiser à des mutuelles obligatoires. Bref, il est indépendant. Jordan s'est renseigné, il peut même crever librement. Le journal La Tribune a posé la question au CEO. Qu'avez-vous prévu si l'un de vos coursiers se retourne contre vous en cas d'accident? Et le CEO de répondre, nous avons étudié cette question avec nos conseillers juridiques. Normalement, les coursiers ne pourraient pas se retourner contre nous. L'assurance est à leur charge et nous vérifions qu'ils en ont une. L'auteur de l'article prend ensuite la peine d'examiner le droit du travail tel qu'il existe encore pour l'instant. On verra tout à l'heure que le droit du travail, bon. Et donc l'article liste les raisons pour lesquelles Jordan, en réalité, comme ses collègues, s'il voulait, pourrait se retourner contre son client, donc Take It Easy, et faire requalifier assez facilement devant n'importe quel tribunal des prud'hommes sa relation avec lui comme une relation de salariat. Tout ça parce que cette histoire d'auto-entrepreneur dans les conditions où ça se passe là, c'est quand même à l'extrême limite du droit du travail. C'est une lourdeur administrative qui pourrait avoir des conséquences très malheureuses pour Take It Easy, nous dit l'article. Si par malheur Jordan se révélait de nature procédurière, ou si, moins probable, il lisait Yahata, donc l'article sur lequel j'ai trouvé cet article, entre deux shifts. En effet, s'il arrivait à prouver qu'il existe un lien de subordination entre son client et lui, alors il risquerait de gagner assez d'argent pour découvrir enfin le vrai sens du mot indépendance. Parce que en cas de requalification du contrat par le tribunal des prud'hommes, toutes les sommes versées à Jordan auraient rétroactivement le caractère d'un salaire. Ce qui veut dire un certain nombre de choses en termes d'heures supplémentaires, en termes de licenciement, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qu'on disait tout à l'heure, si Take It Easy décide de ne plus faire appel à Jordan, ça s'arrête, point final, et Jordan n'a aucun droit. Mais s'il se trouvait que Jordan était salarié, la rupture, du coup, serait nécessairement qualifiée de licenciement, vraisemblablement sans cause réelle et sérieuse, et dans ce cas, pour Jordan, c'est carrément le jackpot. Take It Easy devrait verser une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, l'auteur de l'article part interviewer un officiel de la boîte, pour lui poser quelques questions en particulier du coup sur ce flirt avec les limites du droit du travail. Et l'article nous dit que dans sa novlangue polluée d'anglicisme à vous faire saigner les oreilles, le city manager a pris le temps de me rassurer une fois son call terminé. Et il faut lire les réponses du Gus, hein, vraiment des réponses toutes faites de mauvaise foi triomphante. Et l'auteur de l'article de conclure... Le monde que dessine Take It Easy, c'est celui dont Uber a fait l'ébauche. Une utopie libérale dans laquelle celui ou celle qui ne possède que sa force de travail traite sur un pied d'égalité avec celui ou celle qui détient le capital. La législation, les lois, les règles ne font qu'entraver les belles promesses de la nouvelle économie, qui ne connaît ni exploiteurs ni exploités, seulement des collaborations entre riches et pauvres. Une sorte de retour au 19e siècle qui nous prend assez pour des cons pour se donner des airs de modernité. C'est entre autres sous le prétexte de ce genre de déréglementation de fait que le gouvernement nous a pondu son projet de loi sur la réforme du code du travail. Là aussi, il est question de se débarrasser de lourdeurs administratives, il est question de moderniser, de libéraliser, pour que, en gros, tout le monde puisse devenir des petits Jordan. La mobilisation contre la loi El Khomri, du nom de notre ministre du Travail, la mobilisation prend corps. Pour l'instant, on sait que la pétition sur Internet a battu le record du nombre de signatures de toute l'histoire des pétitions sur Internet. Et pendant que les syndicats peinent à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, on trouve un peu partout quand même d'ores et déjà des appels à manifester le 9 mars. On trouve aussi sur parilutte.info un appel à bloquer les usines, les universités et les lycées. On sait que ce genre de stratégie a déjà pu parfois payer par le passé. Mais alors qu'est-ce que c'est précisément que cette loi ? Alors moi c'est sur le site brest.medialibre.org que j'ai trouvé un article qui propose une synthèse de son contenu. L'article s'appelle « Projet de loi travail, à quelle sauce ils veulent nous bouffer ?» Bon, il faut savoir d'abord que toute la loi El Khomri repose énormément sur les accords d'entreprise. Jusqu'à maintenant, des accords d'entreprise pouvaient déjà changer des choses dans la boîte, mais pour ça, il fallait qu'ils soient signés par un ou plusieurs syndicats qui représentent au moins 30% des votes exprimés aux élections, et à condition qu'il n'y ait pas d'opposition d'autres organisations pesant au moins 50%. Avec la loi El Khomri, un référendum d'entreprise pourra valider un accord, même si les syndicats représentant 70% des salariés s'y opposent. Et dans ces conditions, un paquet de dérogations au droit du travail sont possibles, vous allez voir. Alors par simple accord d'entreprise, donc on peut passer de 44 heures à 46 heures de travail maximum. Aujourd'hui, la durée du travail est limitée à 44 heures par semaine maximum. C'est-à-dire, s'il y a des trucs d'élasticité, ça ne va pas au-delà de 44 heures. Par simple accord d'entreprise, maintenant ça pourrait être 46, et jusqu'à maintenant ça peut durer 12 semaines maximum, et à partir de là ça pourra durer 16 semaines. Si vous vous faites licencier illégalement, c'est-à-dire si votre patron vous licencie juste parce qu'il décide un beau jour que votre tête ne lui plaît pas, jusqu'à maintenant le tribunal des prud'hommes évalue une indemnité qu'il doit vous verser. À partir de maintenant, le tribunal des prud'hommes évaluera une indemnité, mais qui pourra pas être trop grosse, c'est-à-dire que ça dépendra de votre ancienneté, mais au plus du plus du plus, ça pourrait être 15 mois de salaire. Une entreprise va pouvoir, par accord, baisser les salaires et changer le temps de travail. Donc, la loi El Khomri prévoit de nouveaux types d'accords qui permettent aux entreprises, même si elles n'ont pas de difficultés financières, de signer des accords qui prévoient de baisser les salaires, d'augmenter le temps de travail, et tout ça pour une durée maximum quand même. Ça peut pas durer toute la vie, mais ça peut quand même durer 5 ans. Les apprentis mineurs vont pouvoir travailler 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Alors aujourd'hui, le temps de travail des apprentis mineurs ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Mais dis donc, apprenti, si tu crois que t'es là pour rentrer chez toi et zoner toute la soirée sur Facebook, pas du tout, t'es là pour servir à quelque chose, à ton patron. Il suffit d'un accord d'entreprise pour que les heures supplémentaires soient 5 fois moins majorées. Alors aujourd'hui, les heures supplémentaires sont payées plus et c'est la loi qui fixe le montant. Demain, ça sera les accords d'entreprise qui fixeront ce montant. Après un accord, un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail, c'est-à-dire s'il y a eu accord d'entreprise pour un des trucs dont je viens de vous parler, et qu'il y a un salarié qui dit non, mais moi ce qui est écrit dans mon contrat de travail, c'est pas ça, ce salarié peut être tout à fait licencié complètement légalement. Par simple accord, on peut passer de 10 heures à 12 heures de travail maximum par jour. Aujourd'hui, la durée de travail est limitée à 10 heures par jour. Pour qu'elle monte à 12 heures, une autorisation de l'inspection du travail est nécessaire. La réforme supprime cette autorisation. Un simple accord d'entreprise suffira. Alors voilà, ce que je viens de vous raconter, c'est un résumé de l'article. J'ai pas tout lu, vous pouvez aller voir ça sur brest.medialibre.org ou alors sur loitravail.lol. L'article est repris de l'un sur l'autre. Et vous pouvez retrouver encore d'autres mesures que j'ai pas détaillées mais qui sont pas moins dégueulasses. Alors c'est clair, si on veut garder quelques droits, le 9 mars, on bloque tout.
Ça casse et ça passe sur Radio Dessy 105.7 ou 106.6 ou 97 MHz.
Et enfin, c'est sur le site Indie Media Nantes, un article qui s'appelle « Un référendum pour casser la lutte ». Le 11 février, nous dit le chapeau de l'article, le président Hollande a annoncé un référendum sur le projet d'aéroport international à Notre-Dame-des-Landes. Peu de temps avant, la lutte était entrée dans une nouvelle phase avec des actions de blocage du périphérique de Nantes, des occupations de sous-préfectures, des manifestations et des actions partout en France en réponse aux menaces d'intervention policière qui se précisaient à ce moment-là et au rendu de procès défavorable aux derniers paysans qui habitent le terrain. Face à une lutte que l'État ne sait pas vaincre pour l'instant, il ressort un vieux dispositif empoisonné, un dispositif qui a déjà fait ses preuves pour briser des mouvements par le passé. Alors au sujet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la question du référendum va là aussi réduire ce qui s'est ouvert avec la lutte. Et donc la lutte, c'est quoi ? L'article nous dit bien qu'il ne s'agit pas seulement de s'opposer à un aéroport international, qu'il ne s'agit pas seulement de préserver des terres agricoles et des zones humides. Il s'agit surtout de lutter contre le projet de Nantes Métropole, un projet qui bétonne l'espace de Saint-Nazaire à Nantes. C'est donc surtout une opposition au capitalisme sécuritaire et démesuré qui se développe partout aujourd'hui. Et c'est aussi une expérimentation de rapports sociaux plus libres et plus égalitaires, de formes d'existence plus autonomes vis-à-vis du capitalisme et de l'industrie. Bref, c'est une lutte contre le type de société qui porte ce projet et l'ouverture d'horizons possibles. Par ailleurs, des élus locaux à qui Hollande a confié l'organisation du référendum sont des plus ardents défenseurs du projet d'aéroport. La zone qu'ils vont choisir pour leur consultation sera la plus favorable pour eux. Ils mettront les moyens dont ils disposeront pour appuyer le oui. Alors ces moyens, ça va être tout, hein. Ça va être des annonces, des panneaux de pub, des magazines, les médias, etc. etc. La campagne très certainement se focalisera sur les méchants djihadistes verts que sont les zadistes et sur les terroristes que sont les révolutionnaires. Et ça va être pareil pour la formulation de la question, puisque tous les sociologues savent très bien que la manière dont on pose une question influence et permet bien souvent d'obtenir la réponse qu'on souhaite. Et si jamais c'est pas la bonne réponse que reçoit le référendum, qui peut croire qu'elle empêchera une décision contraire à la réponse de la part de l'État ? On a quand même cet exemple évident du référendum sur le traité constitutionnel européen, référendum auquel il avait été répondu massivement non en 2005, et 3 ans plus tard, le Parlement avait fait passer le référendum européen par la force. Autant dire que les gens qui nous gouvernent peuvent parfois nous demander notre avis, mais que quand notre avis ne leur convient pas, ils en ont plus rien à foutre de notre avis. Les grands projets industriels suscitent quant à eux obligatoirement des enquêtes publiques. Les résultats de ces enquêtes, particulièrement par exemple pour le sujet du nucléaire, montrent presque toujours que les populations sont franchement contre. Et ben, ça n'a jamais empêché l'État de construire ses centrales atomiques et puis les autres saloperies industrielles du même type. Et puis, l'enjeu n'est pas tant que l'aéroport se fasse ou non, c'est que l'expérience de la ZAD reste vivante et se développe. Elle montre qu'il est possible de vivre autrement et de se révolter contre le monde tel qu'il tourne au désastre, sans rester englué dans les fictions politiques œuvrant à notre dépossession et notre exploitation. Et ben voilà, bah par ailleurs, dimanche matin, un article sur le site squat.net nous apprend que la manif de samedi a été la plus grosse de toute l'histoire des manifs de soutien à la ZAD. Autant dire que le projet de référendum n'a quand même malgré tout pas encore enterré la lutte.
C'est curieux comme parfois on aimerait que la terre s'ouvre sous vos pieds et vous avale tout entier.
C'était Geronimo Guzman, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Ça casse et ça passe, revue de presse des sites d'information militants.